Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur le burn-out avec nos invités. Jérôme Petazzoni, informaticien. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Marilyn Gomez, écrivain, consultante et coach auprès d'entreprises et de particuliers sur le bien-être professionnel. Bonjour Marilyn.
Bonjour Frédéric.
Alors en plus Marilyn, on a le plaisir qu'elle fasse une émission sur la radio Cause Commune qui s'appelle Travail à cœur. On en parlera sans doute au cours de l'émission. Alors, il y a quelques semaines, un ami me transmet un lien vers une vidéo de 2019, une vidéo d'une vingtaine de minutes, intitulée « Le refactoring le plus difficile de ma carrière ». Alors déjà, je me demande pourquoi cette personne m'envoie cette vidéo qui a l'air très technique, dans laquelle en fait Jérôme Petazzoni, développeur informaticien, parle non pas de technique, mais de dépression et de burn-out. Et cet ami m'écrit, c'est un témoignage rare et instructif, d'où l'idée de l'émission du jour consacrée au burn-out, avant tout dans le monde professionnel, mais au fond dans toute organisation au sens large. Alors, en première question, j'aurais envie de vous demander un petit peu comment vous vous sentez aujourd'hui, quelle est votre météo intérieure, et donc, par exemple, si vous étiez un ciel, quelle couleur seriez-vous aujourd'hui? Marilyn Gomez.
Grand ciel bleu, ensoleillé.
Très bien. Jérôme Petazzoni.
Aujourd'hui, un ciel bleu très azur. Je ne sais pas si c'est ensoleillé, mais je pense au ciel bleu un peu d'hiver, où il n'y a pas de nuages, il ne fait pas forcément chaud, mais c'est très bleu et très dégagé.
Bah, parfait. Alors, première question, on croit sans doute savoir c'est quel burn-out. En tout cas, on a sans doute tous une définition ou des mots-clés associés au burn-out, mais il me paraît intéressant de vous poser comme première question votre propre définition ou votre propre vision de ce qu'est le burn-out. Marilyn Gomez.
Alors, dans mon livre, j'ai écrit que le burn-out, c'était le point culminant d'un enchaînement de causes intérieures révélées par une cause extérieure, à savoir le travail dans ce cas. Mais c'est après une longue réflexion que ça m'est venu, parce que je l'ai vu quand même comme comme un vrai changement, un point de non-retour où il y a un nouveau monde des possibles qui s'ouvre à nous, mais encore faut-il faire une démarche de connaissance personnelle, à travers un cheminement personnel, en fait.
D'accord, on va préciser que le livre, c'est « Comment sortir du burn-out » aux éditions Dervy, sorti en 2019.
Exactement.
Et dans ton livre, tu parles d'ailleurs au tout début de Big Bang, quelque part.
Oui.
C'est une sorte de Big Bang intérieur qui ouvre de nouvelles perspectives, un nouvel espace-temps et un retour sur soi, quelque part.
Exactement. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, comme un point qui me permettait d'aller ailleurs, mais il fallait fermer beaucoup de portes derrière moi pour pouvoir envisager des nouvelles perspectives.
D'accord, on va revenir là-dessus. Et Jérôme Petazzoni, quelle est toi ta définition, ta présentation du burn-out ?
Pour moi, je dirais qu'il y a une définition avant et après, avant l'avoir vécu et après. Avant, c'était quelque chose d'un petit peu vague, en se disant, bon, c'est quand on travaille trop et puis qu'on s'épuise. Et puis quand ça m'est arrivé, je me suis rendu compte que c'était assez différent. Déjà pour moi, c'est passé d'abord par une dépression avant que je me rende compte que finalement c'était peut-être bien un burn-out. Donc ça a été une perte de motivation, les difficultés associées à la dépression. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était peut-être bien un burn-out et j'ai raffiné un peu mes recherches sur le sujet parce que j'avais fait beaucoup de recherches sur la dépression, j'avais regardé beaucoup de vidéos, j'avais lu des articles, des fois presque médicaux, des fois plus des blog posts. Et quand, un petit peu par hasard, j'ai fait une sorte de test pour évaluer le burn-out et que ça m'a dit que j'étais dans le rouge, je me suis dit, tiens, on va réorienter un peu les projecteurs. Et je me suis rendu compte que c'était pas forcément que l'épuisement professionnel. Et pour moi, donc mon burn-out personnel, ça a été se rendre compte qu'il fallait que je change de travail de manière assez large, c'est-à-dire changer de société, changer la nature un petit peu de mon activité et se réinventer aussi. Alors pour moi, j'ai eu moins l'impression d'un Big Bang comme l'a décrit Marilyn, mais quelque part, j'ai l'impression d'être encore un petit peu dedans, alors pas dans le sens où je me sens encore dans l'état de burn-out, mais dans le sens où je suis en train de faire une sorte de transformation dans ma vie et mon travail qui n'est pas terminée, donc je suis pas capable d'avoir un recul encore dessus.
D'accord, alors on va revenir sur tout ça, parce que ce qui est intéressant, c'est justement cette vision du burn-out qui n'est pas uniquement que physique, mais qui est une réinvention de soi-même. Alors tu as parlé des tests, ma deuxième question, c'est un petit peu comment on peut déterminer qu'on est en burn-out ou pas. Et aussi, quelle est la différence, que toi, tu fais visiblement la différence entre dépression et burn-out. Je ne sais pas d'ailleurs si Marilyn, toi, tu fais une différence entre les deux, déjà. Est-ce que tu peux expliquer, d'ailleurs, Jérôme, quelle différence, toi, tu fais entre dépression et burn-out?
Alors, la différence que je fais entre les deux, déjà, je vais commencer en disant que je suis pas du tout spécialiste du domaine. Enfin, j'ai vécu ça, mais c'est que mon expérience personnelle. Et donc, moi, ce qui m'est arrivé, c'est pas la définition canonique de la dépression et du burn-out. Moi, au début, j'ai commencé à avoir des, comment dire, tout devient difficile à faire. On a des espèces de, je dirais pas des crises d'angoisse, mais des petits gestes de la vie quotidienne qui devraient être faciles et qui se retrouvent extrêmement difficiles. Des fois, le matin, ça devient impossible de se lever, de faire quoi que ce soit. Même quand ce qu'on doit faire, c'est pas forcément aller au boulot, hein. Ça peut être aller à la plage avec des amis, un truc super sympa sur le papier, et puis le moment venu, impossible de sortir du lit, quoi. Ou alors, à un moment donné, on se retrouve dans un magasin, comme ça, une grande surface, et puis on sait pas pourquoi, absolument, je devais sortir parce que je me sentais pas bien à l'intérieur, sans être capable d'expliquer pourquoi j'avais cette espèce de malaise. Et puis, tous ces petits symptômes, ben, ils deviennent de plus en plus forts et de plus en plus fréquents, jusqu'à ce qu'à un moment, je me suis dit, bon, là, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Donc, chez moi, ça a été d'abord diagnostiqué en dépression. Donc, j'ai pris des antidépresseurs, j'ai changé un petit peu de rythme de vie. Et puis, ça n'a pas vraiment arrangé les choses, en fait, dans mon cas. Et puis, finalement, par hasard, j'ai passé donc le Maslach Burnout Inventory, donc de Christina Maslach, qui est, je crois, une des spécialistes vraiment de renommée internationale sur le burnout. Et ce test m'a montré que tous mes indicateurs étaient au rouge. Et c'est là que je me suis dit, tiens, finalement, est-ce que ma dépression, c'est un burnout? Et du coup, là, se reposer la question, bah, quelle est la différence entre les deux? Alors, l'impression que j'ai eue, encore une fois, je répète que je suis pas...
C'est ton expérience.
Voilà. Et puis, l'impression que je me suis faite, c'est qu'il y a beaucoup de points communs. Il y a aussi des différences. Je suis pas vraiment capable de dire, voilà, les différences entre les deux, mais par exemple, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit, ah, finalement, tu fais un burn-out, mais en fait, bon, le burn-out, c'est la dépression des riches, entre guillemets. Enfin, c'est comme ça que les gens qui veulent pas parler de dépression vont parler de dépression. Il y en a d'autres qui m'ont dit, non, c'est quand même deux choses différentes, même si parfois on peut diagnostiquer l'un pour l'autre, etc. Voilà. Moi, mon expérience, c'est qu'il y avait quand même des symptômes communs entre les deux. Et mon ressenti très personnel, c'est que si je n'avais pas traité la cause profonde de mon burn-out, donc en gros le travail, j'aurais peut-être pu masquer pendant un petit moment la dépression qui est apparue et aller un petit peu mieux et continuer à faire mon travail. Mais je suis persuadé que tôt ou tard, ça serait devenu plus grave, ça aurait empiré. C'est un petit peu comme quand on a une grosse douleur quelque part et puis qu'on se gave d'antidouleur. Ça peut marcher sur le coup, mais si on fait que masquer les symptômes, au bout d'un moment, quand ça pète, c'est encore plus grave, quoi.
D'accord. Marlène, de ton côté, alors dans ton livre, page 42, d'ailleurs, pour les geeks, c'est une bonne page, il y a une liste de symptômes, à la fois physiques et psychologiques. Alors, comment on peut diagnostiquer, finalement, ou s'auto-diagnostiquer? D'ailleurs, il y a une question, est-ce qu'on peut s'auto-diagnostiquer un burn-out? Et finalement, donc, quels sont les symptômes? Jérôme en a parlé d'un certain nombre. Les symptômes vraiment marquants qui se font dire, là, je suis dans un syndrome de burn-out.
Je pense que la chose la peut-être la plus importante à voir, c'est déjà s'il y a beaucoup de changements, on va dire, au niveau physique, l'humeur, la fatigue, est-ce qu'elle est chronique ou pas. Il y a tous les signes que je cite dans cette page-là, qui est quand même une longue liste, mais je pense qu'il y a tout un... Ils permettent, en fait, on va dire, de se dire, est-ce que j'ai vraiment changé ces derniers mois? Parce qu'un burn-out ne s'installe pas du jour au lendemain, c'est vraiment quelque chose qui s'installe dans la durée. Moi-même, je ne l'ai pas vu venir. Et pourtant...
Oui, parce que j'ai oublié de préciser, toi aussi, en fait, ton livre est quelque part une conséquence, une suite de ton propre burn-out professionnel.
Absolument, voilà. Absolument. Je ne l'ai pas vu venir. Moi, c'est du jour au lendemain. Mon médecin qui était très très au courant, parce qu'elle avait rencontré beaucoup de personnes, et quand je vais la voir, elle me dit, enfin, pour elle c'était d'une évidence, et pourtant j'ai laissé traîner longtemps, et je sentais qu'il y avait quelque chose chez moi qui avait changé, Mais je, voilà, le travail, le quotidien, le trop de tout fait qu'on passe un peu à côté de nous-mêmes, finalement.
Ce qui est intéressant dans ta liste, d'ailleurs, c'est qu'en fait, il y a deux catégories. Il y a symptômes physiques. Alors, si j'en prends quelques-uns, fatigue chronique, maux de tête, problèmes cardiaques, palpitations, envie de vomir, nausée. Et il y a une section syndrome psychologique, sensation d'épuisement, irritabilité, colère, l'impression de perdre de pied, la solitude dont tu parles dans ton livre, l'apathie dont tu parles un petit peu aussi. Et finalement, on peut ne pas avoir les symptômes physiques, j'ai l'impression, mais une partie des symptômes psychologiques et donc être en burn-out alors qu'on n'est pas encore épuisé physiquement. Est-ce que c'est le cas ?
En fait, ça va se manifester vraiment de manière différente de personne à D'accord. personne, d'où la difficulté de poser un cadre, par exemple médical, raison pour laquelle il n'a pas encore été reconnu au sein du DSM-4.
Ah, c'est quoi le DSM-4
En fait, c'est ça répertorie un ensemble de maladies.
De maladies.
Voilà, exactement. Donc, il est difficile de poser un cadre parce que justement, ça change de... chaque personne va manifester des problèmes physiques ou psychologiques différents.
D'accord. Mais toi, ce qui est intéressant, c'est que ton docteur, donc ton médecin, t'a diagnostiqué rapidement, si j'ai bien compris.
Oui.
Alors que toi, Jérôme, ça a pris, dans ta vidéo, un an et demi pour, à peu près pour être diagnostiqué. Et en fait, finalement, c'est une maladie comme une autre, en fait. Que ce que tu dis, c'est un point essentiel, et que ce que vient de dire aussi. Donc,
c'est ça, oui.
Donc vraiment, vous êtes très différents dans le diagnostic, en fait, tous les deux.
Voilà, moi, je pense que j'ai eu à la fois de la chance et pas de chance. Alors le côté pas de chance, c'est que les premières fois où j'ai eu des petits symptômes, qui n'étaient vraiment pas encore très graves à l'époque, je ne pensais pas du tout à une dépression ou un burn-out, je me dis, c'est un petit coup de mou, mais c'est des problèmes de concentration au départ. Donc quand je suis allé consulter, en fait, je suis tombé sur un médecin généraliste, mais qui m'a pas du tout compris. Alors ce qu'il faut savoir dans tout ça, c'est que je vis aux États-Unis, je suis à San Francisco à ce moment-là. Je vais voir un médecin donc avec qui on parle en anglais, et j'ai eu l'impression d'être vraiment pas compris du tout par ce médecin qui m'a dit passez par la pharmacie, prenez une boîte d'antidépresseurs, revenez dans 2 mois. Et je fais quoi ? Il y a pas de suivi, il y a pas de Et puis vraiment le fait, par exemple, que certaines des phrases que j'avais dites avaient été mal comprises.
Oui, ton métier, par exemple.
Voilà, par exemple, c'est ça.
Ouais, j'avais mal compris ton métier.
J'avais dit, je suis software engineer, et puis après, oui. Non, t'es structure engineer. J'avais cru que je construisais des ponts, alors que non,
j'étais développeur logiciel. Voilà.
Voilà. Donc c'était entre mon accent franchouillard et puis ça c'était. Donc c'est vrai que dès qu'on va parler d'un truc comme ça, si on n'est pas compris, on ne se sent pas en confiance. Donc je m'étais dit. Bon, je commence pas les antidépresseurs. Et puis ça a mis presque un an avant que les symptômes reviennent plus fréquents, plus forts, comme je disais tout à l'heure, et que finalement je me dise bon là ça va pas du tout, il faut que je fasse quelque chose et que j'accepte donc de commencer un traitement, mais toujours sans qu'on me propose un suivi à côté, ce qui me mettait pas forcément super à l'aise. Et puis j'ai dû changer plusieurs fois de médicaments. Et puis quand ça a commencé à aller mieux, c'est beaucoup plus tard que vraiment par hasard, quelqu'un qui faisait une étude sur justement l'expatriation, la santé mentale dans les technologies, etc., m'a fait passer ce fameux test.
Ce test de Maslach, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Et c'est là que ça m'a amené à réfléchir. Alors à partir de ce moment-là, j'ai changé de démarche. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de me dire « bon, il faut soigner ma dépression », je me suis dit « il va falloir traiter le burn-out ». Et à partir de ce moment-là, j'ai essayé de réfléchir quelles étaient les solutions. Donc j'ai essayé de prendre un congé sabbatique, puis pour résumer, ça n'a pas marché. Donc j'ai pris la décision de partir de là où je travaillais. Donc ça, c'était le côté pas de chance, parce que j'ai pas eu de chance au niveau des médecins sur qui je suis tombé. Ensuite, le côté chance, je dirais, c'est que j'ai l'impression de pas être tombé très bas, entre guillemets, parce que j'ai réussi à m'arrêter avant que...
Donc ce soit trop tard, en fait.
Voilà, exactement. J'ai aussi pris la décision de parler assez publiquement de ce qui m'était arrivé en me disant, je vais peut-être avoir un retour de bâton, ça va peut-être m'affecter un peu négativement, mais je pense que dans la communauté dans laquelle j'évolue, dans le milieu dans lequel j'évolue, j'espère avoir une assez bonne image pour que ça me mette pas sur la liste noire ou un truc comme ça, donc je vais en parler. J'ai eu une quantité de messages de soutien en public ou en privé, et quelques dizaines comme ça de personnes qui sont venues me parler en privé, alors ou bien des gens que je connaissais un peu de loin ou des fois pas du tout, qui m'ont raconté leur histoire pour me dire qu'elles aussi avaient vécu un truc comme ça, et je me suis rendu compte, mais ben déjà que c'était beaucoup plus courant que ce que j'imaginais, et d'autre part que j'avais eu beaucoup de chance parce que le nombre de gens qui m'ont dit qu'ils avaient dû carrément changer de métier, d'industrie, etc., des gens dont c'était pas du tout accepté par la famille, l'environnement. Et je me suis dit, waouh, j'ai quand même énormément de chance que autour de moi, les gens acceptent ça et même me soutiennent. Et qu'à chaque fois que j'en parle, en fait, pour l'instant, j'ai surtout reçu des messages d'encouragement. Et ça m'a beaucoup ému. Et je me suis dit, voilà, dans mon métier jusqu'à présent, c'était d'aller dans des conférences pour parler d'outils techniques et de choses comme ça. Bon, ça continue d'être ce qui me fait vivre, parce qu'aujourd'hui, je fais des formations sur Docker et Kubernetes, qui sont des outils assez techniques
donc
dans mon milieu.
Donc, c'est des outils logiciels libres assez techniques, on va pas rentrer dans le détail.
Exactement, voilà. Mais par contre, quand j'en ai l'occasion, je viens parler de mon expérience. Encore une fois, en soulignant que c'est que mon expérience qui m'est arrivée à moi et que ça n'a pas vocation d'universalité, mais pour dire que c'est un truc normal qui peut arriver à tout le monde, quoi.
D'accord, ça c'est intéressant et je vais rebondir justement avec Marilyn, parce que c'est ce que tu dis dans ta présentation, c'est que c'est quelque chose qui est très fréquent. Toi, Marilyn, tu as écrit un livre qui s'appelle, donc on le rappelle, Comment sortir du burn-out. Par ailleurs, en termes professionnels, donc tu es consultante et coach et tu accompagnes des entreprises dans le bien-être professionnel. Tu voulais réagir sur autre chose d'abord ?
Oui, j'allais juste réagir par rapport à ce que venait de dire Jérôme. Moi, pour la petite histoire, coup de chance, coup de chance que le médecin était assez attentif à ce genre de cas, puisqu'il en avait déjà eu pas mal. Mais moi, manque de bol, à l'envers de Jérôme, je suis tombée très bas. Donc, c'est ce qui m'a fait aussi pouvoir écrire.
Parce qu'à un moment, tu disais même dans ton livre que tu t'osais plus sortir, en fait.
Ah oui,
tu restais complètement...
J'étais terrorisée, en fait.
Alors qu'à l'inverse, Jérôme, il sortait beaucoup parce qu'il fait beaucoup de conférences. Donc, c'est vrai qu'il y a deux différents niveaux. Mm. Et donc, toi, tu as eu la chance, finalement, de tomber sur un médecin qui avait déjà eu ce genre de cas. D'ailleurs, ça me fait penser à une question. Est-ce que, d'ailleurs, en France, donc Jérôme nous a fait le retour d'expérience aux États-Unis, mais est-ce qu'en France, les médecins sont formés? Est-ce qu'ils sont habitués à faire passer les tests dont a parlé Jérôme ou d'autres tests pour identifier ce burn-out, plutôt que simplement donner la première réponse qu'a eu Jérôme, c'est prenez des pilules, quelle que soit la couleur, et vous irez mieux. Comment les médecins sont formés en France? Médecins généralistes et médecins du travail, d'ailleurs.
Je pense que les gens connaissent plutôt bien le sujet. Après, c'est vrai que ça va dépendre vraiment de leur connaissance, est-ce qu'ils le font ou pas, c'est tellement, on va dire, variable que c'est vrai que j'ai pas de réponse précise.
Non, mais c'est ça. D'accord. Donc on a parlé des symptômes, et là donc je renvoie donc sur les tests cités par Jérôme, mais aussi le livre. Donc je répète, page 42, il y a bien une vingtaine ou une trentaine même de
symptômes. Et encore, il y aurait pu en avoir plus, voilà. Mais je me suis dit que c'était déjà pas mal.
Bon, ça peut faire flipper un petit peu, parce qu'au début, moi je commençais à essayer de remplir, voir si quel cas je cochais, mais donc en tout cas c'est très intéressant. Ça c'est donc les symptômes, mais une fois qu'on a identifié ces symptômes et que, comme l'a expliqué Jérôme, bah, finalement il faut trouver ce que tu appelles dans ta conférence la root cause, donc la cause racine. Quelles sont les causes potentielles d'un burn-out? Et en fait, j'ai découvert qu'il n'y avait pas que des causes physiques, il y avait d'autres causes. Donc Marine, dans ton livre, tu en parles. Est-ce que tu peux nous citer quelques causes principales qui peuvent conduire à un burn-out?
Alors, si on part des causes professionnelles, on pourra dire le surmenage, la suradaptation. Ce sont globalement toujours des gens très engagés, très impliqués, qui se suradaptent facilement à leur environnement. Puis après, il y aura le fait de faire des tâches répétitives, ennuyeuses. Il y a toute une, on va dire, un environnement de travail qui peut conduire à des relations qui sont dysfonctionnelles aussi, qui vont créer plus de frustration et de...
Dans la liste, notamment... c'est marrant, j'ai écouté un podcast récemment qui n'avait rien à voir avec le sujet, et à un moment, la personne parle du burn-out et dit que l'une des causes principales, selon elle, c'est le manque de l'absence de reconnaissance. C'est-à-dire que c'est une des causes dans le monde professionnel. C'est donc, je voyais pas ça comme étant une cause principale, mais en tout cas, selon elle. Donc, quel est votre retour d'expérience là-dessus? Parce que je crois que tu en parles aussi, Jérôme. Marilyn, c'est une des causes vraiment principales, c'est-à-dire dans le monde professionnel, l'absence de reconnaissance.
Oui, je pense que ça joue pour beaucoup l'absence de reconnaissance, mais plus tard, je l'ai compris autrement. C'était que je posais ma reconnaissance à l'extérieur de moi, c'est-à-dire j'attendais un retour des autres en me disant, voilà, c'était bien, enfin, ce côté travail qui correspondait à leurs attentes. Et finalement, j'ai compris plus tard que la reconnaissance, il faut que je l'aie de moi vis-à-vis de moi. Et quand je la pose à l'intérieur de moi, cette reconnaissance, eh bien, je suis moins dépendante d'une reconnaissance extérieure. Donc finalement, ça va moins m'impacter l'opinion ou le regard de l'autre. Et d'accord. Aujourd'hui, on est dans une société où on est aussi beaucoup dans ce regard de l'autre. On a besoin de plaire, on a envie de plaire. Voilà, il y a tout un ensemble de circonstances qui font que on est beaucoup dans ce besoin de reconnaissance.
D'accord. On va revenir sur ce point-là dans la partie reconstruction quelque part, parce que ça fait écho avec ton introduction quand tu as parlé du burn-out comme un enchaînement de causes intérieures révélées par des causes extérieures. Donc c'est intéressant. Je vais revenir sur la partie. Donc toi, Jérôme, je crois que tu parles un petit peu de cette absence de reconnaissance dans ta conférence. Et aussi, alors une des causes que cite aussi Marinine dans son livre, c'est le côté humiliation qu'il peut y avoir dans le domaine professionnel. Toi, ce qui a été intéressant, c'est que, enfin, entre guillemets, c'est que t'as eu du soutien de ton manager, mais par contre, tu expliques que la RH, donc la partie ressources humaines, et la médecine du travail ne t'a pas du tout soutenu quand t'as été les voir pour la première fois, que tu leur as demandé de faire un break, une pause.
Absolument,
de 2-3 mois.
Ouais, moi, ça a été... Et quelque part, ça m'a presque peut-être un petit peu aidé, parce que ça m'a permis de me convaincre qu'il fallait que je parte. Mais quand j'ai commencé à parler à mon manager de faire un break, enfin, mon manager, toute mon équipe a dit « Oui, écoute, là, t'es à fond depuis des années, tu voyages énormément, t'as l'air d'être au bout du rouleau. Ok, oui, il faut que tu fasses un break et on va faire ce qu'il faut. » Et après, par contre, côté RH, c'était une autre planète. Quelque part, il y a une partie de moi qui aimerait bien savoir quelles étaient les discussions qu'il y avait derrière, qu'est-ce qui se passait, parce que ça faisait quand même 7 ans que j'étais dans cette boîte. Je suis entré, on était 5, quand j'en suis sorti, on était 500, donc j'avais vu les gens défiler, enfin je faisais un peu partie des meubles quelque part, donc ça blesse un petit peu de se dire ok, ils veulent même pas me filer 3 ou 6 mois de break comme ça.
Et en plus, on va rappeler qu'à l'époque, tu étais entre guillemets évangéliste, c'est-à-dire que tu faisais beaucoup de conférences, donc t'étais une vitrine pour cette entreprise.
Exactement, oui.
Ouais. Et finalement, tu t'es retrouvé rabaissé à rien, en fait, quelque part.
Bah,
pas grand-chose.
C'était... Je sais pas si j'ai vraiment senti rabaissé, c'est plutôt le côté, tiens, il y a du côté de RH administratif, etc., il n'y a pas l'effort qui se fait.
D'accord.
Donc après, derrière, je me demande, bah, c'est peut-être parce que les gens qui sont à ces postes-là... moi, déjà, j'étais en voyage tout le temps. En plus, j'étais en remote, en télétravail, donc j'étais même pas physiquement au bureau souvent. Donc peut-être que les gens se disaient, c'est qui ce pingouin? Pourquoi il veut un traitement de faveur? À un moment donné, j'avais dit un peu à moitié sur le ton de la plaisanterie, si vous voulez pas créer un programme de congé sabbatique de peur que les gens en abusent, il suffit de le limiter aux gens qui ont au moins 50 boîtes, c'est facile, on doit être 2 ou 3. Donc ça limite un peu. Donc moi, ouais, effectivement, ouais, voilà, il y a pas de soutien de la part de la boîte de ce côté-là. Et puis du côté des médecins, pareil, j'aurais bien voulu savoir qu'est-ce qui se passait, disons, en coulisses dans leur tête. Je me disais, peut-être que j'en suis pas encore vraiment à un stade assez bas. Il y a des médecins qui m'ont dit, non, écoute, on va pas te faire un travail parce que ça a l'air d'aller, là. Il suffit de se reprendre un petit peu et puis tout ira bien. Il y en a même un qui m'a recommandé de me faire des massages à l'huile de sésame en me disant que ça me remettrait d'aplomb. C'est peut-être pas ce dont j'ai besoin pile là maintenant. Je suis OK pour écouter ce que peut apporter la médecine alternative, etc. Mais là, justement, je voulais vraiment prendre les choses en main. Et aucun des médecins voulait me mettre en arrêt ou faire quoi que ce soit de ce côté-là. Ce qui, en plus, fait une petite remise en question, parce qu'on se dit, finalement, c'est peut-être tout dans la tête, ça, etc. Puis après, on reprend quand même ce dont je parlais tout à l'heure, les espèces de mini-crises d'angoisse, les difficultés à travailler, des problèmes de concentration, etc. Et on se dit, non, il y a vraiment un problème, faut que je gère par moi-même, même si ça doit être tout seul, parce que j'ai pas envie d'y rester, quoi.
Alors, tu viens de dire le mot tout seul, j'ai une question collective pour les deux. Quel est le rôle de l'entourage? Là, je parle de l'entourage personnel. On va commencer par peut-être Marilyn. Donc, le rôle de l'entourage personnel, quand toi, tu as fait ton burn-out et en plus, tu expliques que vraiment, tu t'es replié sur toi-même, isolé. Voilà. Est-ce que tu en as parlé autour de toi? Est-ce que les gens t'ont soutenu? Comment l'entourage, je parle bien de l'entourage personnel, hein.
Oui, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que autant ma famille, autant que mes amis m'ont beaucoup soutenue. Et c'est vraiment ce qui m'a aidée dans les mois qui ont suivi ce moment-là, vraiment à me reconstruire. Puis il y avait des personnes, des certains amis qui me conseillaient d'aller rencontrer d'autres personnes. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à y trouver un certain sens. Mais ils ont été très présents. De ce point de vue-là, et je crois que c'est aussi ce qui m'a vraiment aidé à remonter la pente.
C'est-à-dire qu'ils ont considéré ça comme une vraie maladie et non pas
Ah
comme
oui.
un petit coup de fatigue en disant, bah, comme on disait,
Non.
prends des pilules ou va faire un peu de sport, et ça ira mieux.
Non, et c'est en ça que ça m'a beaucoup aidé, c'est que les gens m'ont pas remis en cause. Et ils ont vu mon état, et même certains me disaient déjà depuis un moment que je n'allais pas bien, mais ça, j'étais incapable de le voir.
D'accord. Et de ton côté, Jérôme, tu insistes beaucoup, enfin, tu insistes beaucoup, tu vois, tu en as parlé sur le soutien notamment de ta compagne qui a été
Oui.
présente.
Ouais, c'est pour moi, l'entourage a été hyper important pour bon déjà l'entourage direct, que notamment bah, ma compagne qui m'a beaucoup aidé, qui a enfin comme disait Marilyn, hein, qui a vraiment fait ce qu'il fallait pour m'aider. Et puis d'autre part, je me suis rendu compte aussi au milieu de tout ça que j'étais un petit peu un animal social et que j'avais besoin d'interagir avec des gens. Par exemple, fin 2016, quand vraiment ça allait pas bien du tout. Je suis allé à une conférence et puis je suis retombé sur deux Français que je connaissais. Donc on s'est posé comme ça pour discuter, prendre des verres. Et j'en suis ressorti en allant vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Ça a été suffisamment fort pour que je me rende compte, tiens, là, il y a un truc. Ça, c'est quelque chose dont j'ai besoin. La musique, par exemple, aussi. Donc l'entourage m'a aidé parce que cet entourage a non seulement accepté et me donnait une espèce de feedback positif, mais en plus intrinsèquement ça me nourrissait entre guillemets, rien que le fait d'être avec des gens, d'avoir des vraies conversations sur des vrais sujets de vie, ça pour moi c'est très important. Et puis bah après évidemment à l'inverse par rapport bah, les travail les médecins au travail ou les médecins dans mon cas c'était un peu le rôle négatif parce que ça me faisait me remettre en question mais un peu dans le mauvais côté ça me faisait douter donc avoir un bon entourage qui soutient oui je pense que c'est capital quoi avoir des gens à qui on peut parler ouvertement librement que ce soit le vieux pote d'il y a 20 ans la copine de l'époque de la fac ou etc enfin des gens avec qui on peut se poser de temps en temps finalement pour certaines personnes c'est peut-être le rôle de la thérapie aussi le fait
On
d'avoir
en parlait
quelqu'un
justement tout à l'heure, oui.
voilà le fait d'avoir quelqu'un à qui on peut tout raconter et ça je pense que ça aide à faire un boulot intérieur aussi quoi.
Marilyn,
Moi,
tu veux ajouter quelque chose?
oui, j'allais juste rajouter que j'avais participé aussi à un groupe de parole sur la souffrance au travail.
D'accord.
Et donc, on était un groupe de personnes où tout le monde avait fait un burn-out, chacun pour des raisons différentes et similaires en même temps. Et ça aussi, cet effet de groupe avait été très important parce que ça avait aidé à. En fait, rien que parfois en se regardant, on n'avait pas besoin de se justifier, on se comprenait en fait dans ce qui nous arrivait.
Et comment t'avais trouvé ce groupe?
C'était un jour une séance d'information à l'ACRAMIF et ce sont eux qui ont proposé à la fin, qui voulaient s'inscrire sur un groupe qui allait être créé. C'était assez récent, mais je me suis dit pourquoi pas et c'était une expérience vraiment incroyable.
D'accord. Alors là, on a parlé au début des symptômes, des causes profondes. On va parler maintenant un petit peu de bah, comment traiter, puis comment se reconstruire, parce que vous êtes tous les deux, vous avez employé ce terme-là. Mais juste avant, sur ce dont on vient de parler, sur l'entourage, l'importance que vous citez d'ailleurs tous les deux dans votre conférence et dans ton livre, sur le fait d'être attentif aux autres. Une personne qui peut se sentir fatiguée de lui poser la question comment elle va, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est essentiel pour justement libérer cette parole. Est-ce que toi, par exemple, dans ton coaching d'entreprise, c'est quelque chose sur lequel tu insistes? Est-ce qu'il y a des choses concrètes ou c'est simplement le fait d'être un être humain et d'être s'intéresser à ce que vit l'autre au quotidien en fait?
Oui, je pense que c'est très important que d'être ouvert aux autres et d'être attentif un peu à l'environnement qui nous entoure, d'être dans cette bienveillance et tenter de cultiver ça au maximum parce que je crois que c'est ça aussi qui fait un peu la différence dans le fait de pouvoir prévenir peut-être un peu plus ce genre d'événement. Après, est-ce qu'on pourra vraiment, vraiment tout prévenir? Je ne pense pas, mais en tout cas, ça aide. On se sent en tout cas plus soutenu dans certaines périodes de vie.
D'accord. J'ai juste précisé qu'Étienne en régie me précise que la CRAMIF, c'est la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France. Merci Étienne, parce que c'est vrai qu'on ne maîtrise pas tous les acronymes. Et, donc, et toi Jérôme, j'ai une question en lien avec ça. Tu as parlé donc initialement dans un post sur un site web de ce burn-out. Tu disais que tu pouvais le faire parce que tu estimais que vu ce que tu faisais, les gens l'accueilleraient bien. Tu as eu beaucoup de retours. Est-ce que ça a permis à des gens de révéler quelque part leur propre burn-out en disant bah, « Tiens, là ce que tu viens de raconter, j'ai l'impression, je le vis et je peux enfin mettre un mot sur ce que je ressens, sur ce que je vis ».
Je pense que oui, même si je pourrais pas dire comme ça, tiens, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit j'avais besoin d'entendre ça, ou un truc super émouvant comme ça quand je suis descendu de scène après en avoir parlé, je crois que c'était en avril 2019. Je me rappelle que le gars de la régie audio qui est venu prendre le micro que j'avais comme ça, il m'a demandé dis donc ta présentation là, va être mise en ligne après parce que moi j'ai besoin que ma femme entende ça parce que je crois qu'elle est là-dedans elle aussi. Donc ça m'avait beaucoup ému en me disant en fait bah c'est ça que je veux arriver à faire, c'est que des gens puissent mettre un nom, se dire que ça, c'est des choses qui peuvent arriver, que enfin je veux pas dire non pas que c'est pas grave parce que c'est justement ça peut quand même aller assez loin et être assez grave, mais se dire que ouais c'est une situation de vie qui peut nous arriver à tous au même titre que se casser une jambe, avoir un accident de voiture ou un truc comme ça. Bien sûr, c'est des choses qu'on essaye d'éviter parce que c'est un côté négatif de la vie, mais en même temps, ça peut arriver et quand ça arrive, au moins, on peut mettre un nom dessus, et puis on a des pistes hein, pour y faire face et...
Justement, on va parler après la pause musicale des pistes pour y faire face. Alors, c'est la première fois que la pause musicale, on a l'artiste en studio, vu que c'est Jérôme Petazzoni. Le titre s'appelle « On vend des globes 2018 ». On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune,
93.1. Thank you.
écouter, nous sommes en train d'écouter la fin. On vend des globes. 2018 par Jérôme Petazzoni qui est avec nous en studio. C'est disponible sous licence libre Creative Commons, se partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur causecommune.fm. Nous allons poursuivre notre discussion sur le burn-out, donc avec Jérôme Petazzoni qui est informaticien et Marilyn Gomez qui est écrivain, consultante et coach auprès d'entreprises sur le bien-être professionnel. Donc, avant la pause musicale, on a parlé un petit peu des symptômes, des causes, du retour d'expérience de nos deux invités. Et là, on va parler un petit peu du sujet important, c'est qu'une fois qu'on a identifié qu'on est en burn-out, c'est que faire pour remonter la pente et même plus loin pour se réinventer. Je crois que c'est un terme que tu emploies, Marilyn, dans ton livre, se réinventer. Alors, quand on parle de burn-out, les gens, je pense, se disent plutôt « bon, on va essayer de récupérer physiquement ». Mais en fait, un burn-out permet de se réinventer. Marilyn Gomez.
Oui, absolument. Je pense que on peut transformer les épreuves difficiles de notre vie en une opportunité d'être peut-être plus nous-mêmes, en fait, en partant un peu à cette découverte, un peu à la recherche de soi. Et déjà, je pense que ça passe aussi par un travail émotionnel de ne plus poser nos émotions en déni. Il y a ça qui se passe souvent aussi, c'est qu'on a des peurs, hein, parce que le burn-out, c'est aussi une histoire de peur, hein, derrière. Une partie de l'histoire.
Il y a de peur dans le cas de son histoire personnelle, tu veux dire ?
Oui, je pense. Que ce soit peur de l'insécurité, peur de la solitude. Enfin, après, chacun aura ses raisons, mais qui font qu'on tente de tenir un cap qui, à un moment donné, ne tient plus la route. Et je pense que c'est très important que d'aller regarder ses peurs ou ses émotions et tenter de comprendre aussi ce qu'elles veulent dire de nous, en fait, vers où on peut se tourner, en fait. Et du coup, je pense que j'ai un peu perdu le fil de ta question.
Comment
se réinventer, exactement.
Oui, c'est comment se réinventer. Donc, et qui finalement, c'est une vision totalement positive, quelque part, du burn-out. Parce que si je comprends bien, toi, tu as un peu changé de vie.
Complètement.
Donc, et Jérôme Petazzoni a changé d'activité et en partie changé de vie. On verra après ce qu'il nous dira. Mais donc, c'est vraiment une réinvention complète, quoi.
Oui, parce qu'en fait, je crois que parfois, on s'éloigne de qui on est et des choses qu'on veut faire. Et à partir du moment où, en tout cas pour moi, où j'ai eu cette... où ça m'est arrivé, je me suis posé beaucoup de questions sur aussi le sens de ma vie, vers où est-ce que je voulais aller, qu'est-ce que je voulais faire. Je ne savais plus vraiment ce que j'aimais, ce que je voulais faire. Ça a mis du temps. L'écriture, c'est venu un peu par hasard. Et de fil en aiguille, je n'ai plus arrêté d'écrire, je continue à écrire, j'ai profité de ça en me disant, comment est-ce que j'ai envie de vivre ma vie pour tenter de m'en rapprocher un maximum de qui je suis moi, au fond de moi. Je pense que c'est vraiment, c'est pas toujours facile parce que, il faut tenter d'aller se dépasser, tenter d'aller chercher ce petit quelque chose à l'intérieur de nous qui va faire la différence pour nos vies.
Alors, c'est pas si facile et je suppose qu'une aide peut être nécessaire. Tout à l'heure, Jérôme Petazzoni, tu parlais de l'importance de la thérapie. Est-ce que tu peux nous expliquer justement quel rôle a joué pour toi la thérapie dans cette réinvention de toi ?
Alors, pour moi, la thérapie, ça a été très utile pendant la phase, dépression. C'est-à-dire avant que je puisse mettre l'étiquette burn-out sur ce qui m'arrivait, où je pensais que c'était entre guillemets qu'une dépression. Je mets entre guillemets parce que c'est déjà assez grave. Et la thérapie, ça m'a aidé en fait à mettre un petit peu de l'ordre dans les idées, plein de petits détails. Alors c'est difficile. Par exemple, j'ai un ami qui une fois qui a eu une très bonne comparaison. Il disait quand on fait de la thérapie, en fait, il y a jamais une séance individuelle qui représente une espèce d'avancée comme ça qu'on peut identifier. C'est un processus un peu global, quoi. C'est un petit peu comme si on montait des escaliers. Chaque marche en soi, c'est rien, sauf qu'une fois qu'on a monté l'escalier, on est en haut. Donc là, dans mon cas, c'est un petit peu ça. C'est que je pourrais pas dire, tiens, il y a eu une séance là qui a été la révélation. Par contre, le fait d'avoir quelqu'un qui a pu suivre un petit peu ça, me donner des outils. Par exemple, c'est grâce à ça que je me suis mis en place un mood chart, donc en français une espèce de tableau en fait qui suit un peu mon humeur.
De l'humeur, voilà.
Donc c'est un truc que j'utilise encore aujourd'hui en fait. C'est qu'à la fin de chaque journée, j'ai un tableau, donc une feuille de calcul où je note en gros mon niveau d'énergie, mon niveau de concentration, est-ce que j'étais plutôt motivé, plutôt pas motivé, est-ce que j'avais envie de voir les gens. Et à chaque fois sur une échelle en gros de 1 à 5, où 1 ça va vraiment très mal et 5 c'est la super gouache. Alors la plupart du temps on oscille un petit peu entre les deux. Et c'est un tableau que je me suis fait de, comment dire, c'est complètement personnalisé. C'est-à-dire qu'au début, on m'avait donné un tableau avec d'autres catégories, puis une échelle sur 10 points. Et moi, j'ai dit, écoute, une échelle sur 10 points, ça n'a pas de sens, quoi. Je ne sais pas si aujourd'hui, est-ce qu'on est à 7, est-ce qu'on est à 8. Bon, donc on a réduit le nombre de points, on a pris des critères avec lesquels j'étais plus à l'aise. Et ça m'a pas mal aidé. Alors pareil, ce n'est pas juste le fait de remplir ça qui fait se sentir mieux. Mais par exemple, ça m'a permis de me rendre compte des moments où ça allait mieux et où ça allait moins bien. Alors il y a eu quelques révélations qui n'en étaient pas. J'ai évoqué tout à l'heure le fait de, à une conférence comme ça, tomber au hasard sur deux Français que je connaissais, passer un bon moment ensemble et me rendre compte, c'est vraiment important, j'ai besoin de ça. Bah là, pareil, je me rappelle d'un voyage à San Francisco où j'ai vu des amis et après, quand j'ai regardé la courbe, il y a tout qui était à 5 comme ça pendant quelques jours. Et même si après coup, c'est toujours facile quand on regarde derrière soi de se dire, ah bah oui, je le savais. Bah, je pense que sans ce petit graphe là que je me faisais, je m'en serais pas rendu compte, en fait. J'aurais peut-être pu passer à côté de ça, alors que c'était quand même vachement important. Ça m'a permis de me confirmer, OK, j'ai besoin d'être avec des gens, de voir des amis, d'avoir ces échanges là. Voilà. Ensuite, l'impression que j'ai eue sur la thérapie en général, c'est qu'il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres. Alors moi en plus, je suis passé par aussi beaucoup de thérapie en ligne parce que comme je voyageais beaucoup, c'était pas toujours possible de s'astreindre à voir toujours la même personne chaque semaine au même endroit en personne. Enfin, c'était même juste pas possible du tout. Donc j'ai essayé un petit peu par téléphone ou par Skype. Et pour moi, ça marchait un petit peu moins bien en anglais, juste parce que...
C'était plus compliqué d'exprimer tes émotions en anglais, parce que c'est de l'anglais
difficile. Voilà, il y a déjà un petit peu l'anglais, et puis je pense que le fait d'avoir quelqu'un en face, il y a beaucoup de choses qui passent mieux comme ça. Même si on fait ça en visio, il y a plein de choses qu'on rate dans le langage corporel, etc. Donc j'ai fait des choses en ligne. Alors je suis passé par carrément des sites où on parle avec des gens, mais là, en écrivant. Et alors, paradoxalement, pour moi, ça marchait mieux que d'avoir quelqu'un au téléphone ou sur Skype, parce que bah, déjà, m'exprimer en anglais à l'écrit, c'est plus facile pour moi, donc à l'écrit qu'à l'oral. Et puis ensuite, ça me permettait d'avoir un rythme aussi un peu plus souple. Et donc, il y a des personnes qui m'ont beaucoup aidé, d'autres beaucoup moins. Et ce que j'en ai retenu, la métaphore qui m'est venue vraiment à l'esprit, c'est un petit peu comme la salle de sport, quoi. C'est-à-dire que il y a des gens qui vont aller régulièrement faire du sport en salle comme ça de manière hyper assidue et que ça va aider beaucoup parce que en effet c'est des gens qui par ailleurs vont avoir un rythme hyper sédentaire, prendre la voiture tous les jours, travailler assis à un bureau comme ça toute la journée. Donc là à ce moment-là, faire du sport en salle, ça peut être salutaire. À l'inverse, quelqu'un qui habite au 5e sans ascenseur et qui marche beaucoup, qui va naturellement aller faire un petit jogging au parc ou etc. Cette personne-là aura peut-être pas besoin d'aller faire du sport en salle. Bah, je pense que pour la thérapie, c'est un peu pareil, sauf que je suis incapable de donner l'équivalent. Peut-être, comme on évoquait un peu plus tôt, c'est peut-être le fait des fois de parler avec quelqu'un, de s'ouvrir comme ça complètement, d'évoquer des sujets assez personnels. Rien que le fait d'en parler, ça peut amener à faire un petit travail d'introspection. Donc voilà, pour moi, la thérapie, ça m'a aidé comme ça.
D'accord. Marilyn, toi, tu es coach aussi. Donc je suppose que tu reçois des personnes et que finalement, il y a la thérapie, il y a le coaching. J'ai vu aussi dans ton livre que tu as un petit peu comme Jérôme, des cartes où on peut mettre des niveaux par rapport à des sensations quotidiennes ou autres. Il y a aussi l'art-thérapie. Voilà, il y a un panel d'activités qui peuvent être faites pour traiter finalement ce burn-out et se réinventer.
Mais en fait, comme disait Jérôme, et je suis un peu passée par là aussi, je pense qu'il n'y a pas une bonne méthode, mais plusieurs choses qui peuvent marcher pour chacun d'entre nous. Moi, quelque chose qui, par exemple, m'avait beaucoup aidé, je m'étais fait aussi un grand tableau où en fait, j'avais tenté de, de me voir tout au long de ma vie, enfin essayer de trouver un fil conducteur de ma vie. Voilà toutes les choses que j'avais faites, comment est-ce que moi je me percevais, comment les gens me percevaient. Enfin, j'essayais un peu de retracer tout ça et ça m'a beaucoup aidé d'avoir toutes ces feuilles que je remplissais au fil des semaines et au fil des mois. C'est pas venu comme ça. Les pages sont restées blanches assez longtemps. Je savais pas trop ce que j'allais y mettre, mais en fait, j'ai compris à un moment donné qu'il y avait une histoire aussi de identitaire, en fait, où on a besoin d'aller se retrouver, qui on est, ce qu'on a envie de faire, comment retrouver ce sens, en fait. Et puisqu'il y a quand même eu une déconstruction, quelque part, de notre identité, quand on s'associe, enfin, quand on se voit que par le prisme du travail, et que ce pilier, il tombe dans notre vie. Donc, il faut aller rechercher des ressources ailleurs. Et d'où l'importance de construire des bases plus solides par rapport à qui on est et à nos valeurs.
Mais d'ailleurs, dans les causes possibles de burn-out que tu cites, il y a l'opposition entre les valeurs personnelles et les valeurs de l'entreprise ou de l'organisation dans laquelle on travaille. Alors, je vois que le temps file et je vois qu'en régie, Étienne nous pose des questions. Alors, première question, c'est... Là, vous venez de parler d'une réponse un petit peu individuelle sur le fait de se questionner, de retour à soi, etc. Et la notion de réponse collective... Et peut être importante, comment se protéger collectivement dans les espaces de travail, se soutenir entre collègues pour prévenir, accompagner le cas échéant un burn-out, que ce soit dans le domaine associatif ou professionnel. Alors, réponse courte parce que le temps file. Jérôme, peut-être ?
Alors, moi, ça peut être une réponse qui est assez personnelle et par rapport aux environnements où j'ai travaillé, j'ai souvent eu j'ai construit des amitiés assez fortes, pas avec tout le monde, hein, mais il y a toujours quelques personnes privilégiées au boulot. Moi, ça m'aide, mais je ne sais pas si c'est une réponse universelle. Et dans le cadre du travail, moi justement, je me sentais un petit peu isolé à la fin parce que j'étais en télétravail, je voyageais beaucoup. À chaque fois que je revenais au bureau, des fois, je me demandais est-ce que j'étais au bon endroit parce que je reconnaissais personne, parce qu'il y avait eu 50 personnes qui avaient été engagées depuis la dernière fois que j'étais passé au bureau. Ce que je disais un peu dans ma présentation, dans ma conf là, c'est de demander aux gens comment ça va et d'arriver à créer un climat où on se sent capable de dire à quelqu'un non là ça va pas du tout parce que x y z. Et alors ça c'est comment dire, c'est facile à dire en
mais
théorie,
c'est pas facile à faire.
Mais alors en pratique ça peut être très difficile à faire. Comment créer ce climat de vulnérabilité, de
confiance,
de confiance
on peut parler.
Ouais.
Marilyn, sur cette question.
C'est justement ce que j'avais parlé de la confiance, avoir quelques personnes de confiance à qui se confier. Et je pense que au moment où les choses commencent à changer, en fait, elles seront quand même plus à même de démettre un autre regard sur nous.
D'accord. Et Étienne nous pose une seconde question intéressante. Faut-il faire un temps d'arrêt, c'est-à-dire carrément une pause comme toi tu l'as fait, et évidemment une certaine sécurité matérielle est nécessaire pour ça, mais est-ce que le temps d'arrêt, c'est-à-dire une pause de plusieurs mois, est absolument nécessaire? Marilyn Gomez.
Personnellement, je pense que oui.
Oui.
C'est essentiel, on ne peut pas sortir de quelque chose d'aussi compliqué en continuant à... Alors oui, avoir des activités, mais je pense que vis-à-vis de la situation professionnelle, je pense que ce temps d'arrêt, il est salutaire, en fait, justement pour permettre de se retrouver et de faire un peu un bilan et de se reposer aussi.
D'accord. Jérôme, pareil, sans ce temps d'arrêt-là, tout ce serait encore été pire, quoi.
Ouais, absolument, ouais. Je pense que c'est comme quand on se casse une jambe, après, il faut la laisser reposer un moment, quoi. Si on retourne au ski tout de suite, c'est pas bon. Donc, et effectivement, ça, des fois, ça peut être un luxe parce qu'on peut pas forcément arriver à se faire mettre en arrêt, on n'a pas forcément des moyens de côté, etc. Et c'est là qu'il y a un gros, gros challenge, évidemment.
D'accord. Et alors, avant la dernière question, enfin, tour de table de conclusion, comment vous allez aujourd'hui? Comment vous sentez?
Ça va beaucoup mieux. Après, j'ai l'impression que je suis en train de me reconstruire, de me réécrire, de définir ce qui va venir après. Donc, il y a une page qui est tournée, qui était une page difficile, et j'ai l'impression que je suis en train peut-être d'en tourner d'autres qui sont peut-être un peu plus faciles. Mais les choses changent, quoi. Voilà.
D'accord. Marilyn, de ton côté?
La même chose, ça va beaucoup mieux. Enfin, c'est vrai que c'était un moment compliqué, mais qui a permis en fait de poser des nouvelles bases et on continue à avancer, à être vigilant tout de même, parce que je pense que je dis je parle pas de vraiment la des séquelles, mais voilà, il faut rester attentif à soi et ne pas se perdre de vue. Voilà, y aller pas à pas, ne pas retomber dans les mêmes travers.
D'accord. Alors, une question que j'ai failli oublier de poser à Jérôme. Libre à vous, c'est une émission autour du logiciel libre, des libertés informatiques. Est-ce qu'il y a, alors désolé pour la réponse courte, mais est-ce qu'il y a une spécificité ou par rapport donc au monde du logiciel libre et le burn-out?
Je pense que oui, dans les communautés open source, parce qu'il y a beaucoup de mainteneurs open source qui ne sont pas rémunérés.
Qui sont bénévoles.
Qui sont bénévoles, d'une manière ou d'une autre. Et parce que les attentes des gens, c'est que comme c'est gratuit, on peut demander ce qu'on veut aux mainteneurs, etc. Alors, on pourrait presque faire une émission complète là-dessus.
En fait, c'est j'anticipe un peu le fait qu'on va sans doute en faire une, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a des spécificités. Mais est-ce que dans le domaine professionnel libre, à part le fait que toi, t'es fait, comme tu le dis à un moment, une centaine de conférences dans l'année, est-ce que finalement, ce que tu as vécu, tu l'aurais pu vivre dans le domaine du logiciel privateur ou ailleurs?
Je pense que oui. Je vois des choses qui peuvent arriver spécifiquement dans le libre. Et il y avait une très très bonne présentation à, je crois, à la conférence PyCon à Montréal en 2015.
Alors sur Python, on mettra les références sur le site d'April.
Il y avait un track complet en fait sur la santé mentale et quelques talks précisément sur le côté dans les communautés libres. Donc oui, je pense qu'il y a des choses spécifiques, mais je pense que ce qui m'est arrivé n'était pas forcément. Enfin, ça aurait pu m'arriver effectivement dans un autre contexte, ouais.
Tout à d'accord. Bon, je pense qu'on consacrera c'est une émission pas forcément au burn-out en tant que tel, mais à l'engagement, voire le surengagement dans les communautés du libre. Bah, je voudrais demander peut-être une phrase de conclusion chacun et chacune, peut-être un message à faire passer, à retenir pour les personnes qui nous écoutent. On va commencer par Jérôme et Marilyn conclura. Jérôme Petazzoni.
Moi, j'ai envie d'élargir un petit peu. C'est-à-dire il y a le burn-out et puis de manière générale la dépression et puis tout ce qui tourne autour au niveau de la santé mentale. On a énormément de stigma autour de ça, enfin, je dirais quasiment partout dans le monde, enfin, même si je me base que sur mon expérience en France et aux États-Unis. Et pour moi, c'est des maladies comme les autres, quoi. Donc, une dépression, un cancer, des choses comme ça, c'est, on a du mal à accepter ça, en fait, parce que souvent, on est super rationnel et on se dit, c'est quoi les signes concrets, la quantité de je sais pas quoi que j'ai dans le sang ou dans le corps qui me dit je suis déprimé, je suis pas déprimé. Donc c'est pas aussi clair que ça, mais pour moi c'est une maladie comme une autre. Il faut qu'on accepte ça si on veut grandir comme société. Faut qu'on accepte ça et qu'on arrête de regarder les gens déprimés comme étant je dirais pas normaux ou quelque chose comme ça, quoi.
D'accord. Marilyn Gomez.
Je partage tout à fait du même avis. Je pense qu'il faut remettre la santé mentale un peu à l'ordre du jour. Et peut-être pour un dernier mot de la fin, ça serait que ne pas oublier qu'on peut toujours choisir de transformer une épreuve difficile en une opportunité dans la vie. Je pense qu'il faut garder un cap positif dans notre vie et ça reste un choix personnel à faire. On peut toujours choisir de s'apitoyer sur soi-même ou de réunir la force et le courage suffisant en nous pour aller de l'avant et pourquoi pas réinventer notre vie.
Bah écoute, Marilyn, c'est une belle conclusion. Je vais rappeler donc que Marilyn Gomez est aussi animatrice sur la radio Cause Commune. Son émission, c'est Travail à cœur, c'est chaque jeudi de 12h à 13h. Les podcasts sont disponibles sur le site causecommune.fm. Et récemment, enfin la dernière émission, je crois d'ailleurs, n'est pas si loin de notre sujet. C'était Prévention du suicide, comment faire bouger les lignes. Donc c'est le podcast du 6 février 2020. Donc je vous encourage à écouter ce podcast. Donc je remercie Jérôme Petazzoni et Marilyn Gomez d'être intervenus aujourd'hui. Je vous souhaite une belle fin de journée et surtout, prenez soin de vous.
Merci. Merci.